Bonjour à tous, bienvenue dans 7 jours dans le monde, retour sur l'actu internationale de la semaine qui nous emmènera bien entendu à Alep, ville de mort de laquelle triomphe eh bien Assad, Poutine, Rouhani. On sera également à Palmyre, un petit peu plus au sud, hein, reprise par Daesh le week-end dernier. New York, où du haut de sa Trump Tower, Donald Trump eh bien boucle quasiment donc sa future équipe gouvernementale. Il continue d'étonner. Et puis Washington et Moscou engagés dans une course aux armements numériques. La France aussi s'y met. C'est parti pour 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et avec Henri Landès qui nous accompagne. Bonjour Henri.
Bonjour.
Henri Landès qui est maître de conférence à Sciences Po Paris qui vous propose Allô Houston. Voilà, les États-Unis vus par un Américain en colère qui revient sur 35 ans d'action politique américaine et qui ont conduit eh bien à proposer ce choix inédit aux Américains début novembre. Donald Trump contre Hillary Clinton, avec Donald Trump évidemment élu. On va y revenir, je vous le disais il y a quelques instants. Pierre Servant est avec nous également. Bonjour Pierre.
Bonjour Fabrice.
Expert en stratégie militaire, et là aussi tu as une bonne idée, il y a une semaine du réveillon de Noël, un roman, votre premier roman Pierre Servant, Le Testament Aulique, mi-autobiographique avec votre famille bien sûr, parce que ça se passe pendant la guerre de 14-18, mi-romancé bien sûr, on va pas en dire plus, c'est passionnant. Alors, à la une, hein, je vous le disais donc une nouvelle fois, Alep, hein, dont le siège dure maintenant depuis la fin de l'été, des centaines de civils tués, officiellement hein, plus de 100 000 autres affamés, assiégés, il en reste quelques dizaines de milliers bloqués dans l'enfer de ce qui était cette grande ville du nord de la Syrie.
Alep est en deuil. On dirait que les médias internationaux ne sont pas au courant de ce qui se passe ici. Les réseaux internet ont été coupés. Il n'y a plus d'humanité pour nous.
Plus d'humanité pour nous, c'est ce que disait aussi un responsable des Nations Unies. Et c'est vrai que toute la semaine, eh bien, se sont enchaînés des débuts de semblants, d'évacuations militaires, de fausses trêves. Hein, cette semaine, alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Est-ce qu'il y a eu un déclic, une prise de conscience, justement, ou carrément un ras-le-bol hein, devant l'horreur de la situation? Avalanche de condamnations contre Bachar al-Assad, dont l'armée contrôle quasiment désormais tous les quartiers rebelles, contre ses alliés, les Iraniens, principalement des critiques également contre les Russes, qui a donné lieu d'ailleurs à cet échange inédit hein, aux Nations Unies entre l'ambassadrice américaine Samantha Powers et puis son homologue russe.
To the Assad regime, Russia and Iran, three members...
Au régime d'Assad, à la Russie, à l'Iran, trois États membres derrière la conquête et le carnage d'Alep. Vous êtes responsable de ces atrocités par votre opposition à l'ONU, par votre rejet des efforts d'évacuation de la Croix-Rouge internationale. Vous continuez à informer ces milices qui massacrent des innocents pour qu'elles poursuivent leurs atrocités.
Ce que je trouve particulièrement étrange dans la déclaration de la représentante des États-Unis, c'est qu'elle se prend pour Mère Teresa.
Voilà, rendez compte un peu l'échange. Alors Pierre Servant, vous venez régulièrement dans 7 jours dans le monde hein, sur BFM Business. Et c'est vrai que depuis des semaines, que ce soit vous, que ce soit Frédéric Ancel, Jean-Dominique Kimmerchet, Philippe Moreau-Desfarges, enfin tous ceux qui viennent ici dans ce studio, ça fait des semaines qu'on constate, qu'on raconte l'horreur, justement, l'agonie de cette ville, l'avancée donc sur les rebelles islamistes dans la partie est, d'ailleurs qui ont été évacués par les Russes, par l'armée syrienne, dixit les Russes, ce vendredi. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, à tel point qu'il y ait cette accélération de l'émotion, accélération des condamnations, donc, que certains se réveillent, j'ai l'impression, découvrent Alep, on a vu la maire de Paris, finalement, éteindre la tour Eiffel. Bon, on ne sait pas pourquoi cette semaine, plus que la semaine dernière, ou il y a deux semaines. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine?
Je crois que ce qui s'est passé, c'est la traduction de notre impuissance, enfin l'impuissance, je dirais, des démocraties, des univers qui ne sont pas dans le rapport de force brutal et cynique. Et c'est le fait d'être complètement sidéré par ces images, même s'il n'y a pas eu de génocide. C'est là où c'est compliqué pour nous de commenter, d'avoir des informations précises et d'être juste. Ce qui est certain, c'est que le régime de Damas est un régime d'une brutalité totale. Depuis le départ, c'est vraiment un régime criminel. Et les Russes, qui ont un plan de bataille stratégique à la fois militaire et politique, ont accompagné cette reconquête du terrain. Et c'est vrai que devant les images, les témoignages, le sentiment que tout d'un coup, ça allait se tomber, un certain nombre de personnes se réveillent. Moi, je jette la pierre à personne, parce que je dois dire que depuis le temps que je commente avec vous sur ce plateau ce drame depuis 5 ans, moi-même, je suis de plus en plus effondré. On n'arrive pas à avoir des commentaires intelligents, à savoir surtout que faire. Deux enseignements peut-être un peu structurants, enfin du moins j'essaye de le faire. D'abord, la guerre, l'affrontement, c'est toujours une confrontation des volontés, des énergies et des volontés. Très clairement, du côté de Poutine, du tsar Poutine, il y a une volonté extrêmement puissante et il y a une prime au cynisme. Et face à cela, les forces démocratiques, la coalition, ceux qui essayent de jouer sur l'ONU, sur l'altérité, sur le fait de trouver des débouchés politiques aux affrontements militaires, ils sont historiquement toujours en perte de vitesse. Ils ont un temps de retard. Et nous avons un temps de retard depuis 2013, quand, à cause de la défection américaine et britannique, on n'a pas frappé Bachar et Al-Nosra, c'est-à-dire Al-Qaïda, puisque c'était prévu dans les plans de frappe secrets, à une époque où Daesh n'existait pas. Et c'est le second enseignement de l'histoire. L'histoire ne repasse pas les plats. C'est-à-dire que quand vous avez loupé le coche, eh bien, les choses s'enchaînent et on arrive à ce à quoi nous avons assisté cette dernière semaine, ce à quoi vous faisiez allusion, c'est-à-dire John Kerry, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères du plus grand pays, la plus grande puissance militaire, faire appel à la compassion russe, espèce de truc. Vous vous rendez compte à quel point il est démuni pour dire aux Russes un peu ce que Samantha Power a déclaré en disant « mais arrêtez de vous associer à cette boucherie ». Le président français et la France a fait un énorme travail diplomatique depuis des années. La France a été le seul pays en 2013 à tenir debout sur le fait d'aller frapper. On était le seul pays en lice à pouvoir le faire. Donc moi, je ne jette pas la pierre à la France ou à la diplomatie française. Mais le président français qui lance un ultimatum humanitaire. Et la punition, si ça ne marche pas, c'est de dire « Nous ne reconstruirons pas la Syrie après ». Mais Bachar el-Assad s'en moque comme de l'an 40.
On a l'impression qu'on dit « S'il vous plaît, monsieur Boucher, arrêtez ».
Là aussi, je ne veux pas radoter, mais vous le savez, encore une fois, l'histoire ne se répète pas. Je suis historien de formation, mais il y a un parfum années 30 qui est terrible, c'est-à-dire un effondrement des structures de dialogue et des démocraties qui n'arrivent pas à reprendre la main, à faire des propositions, et une montée des nationalismes à tendance totalitaire appuyée sur des religions aujourd'hui, les orthodoxes, l'islam, chiite ou sunnite, etc. Et dans cette confrontation-là, on arrive à cette semaine où on pleure, on déplore et on pleure, parce qu'on n'a pas la main, on n'a pas la main.
Pierre Servent, les Russes annonçaient ce vendredi que les rebelles et leurs familles avaient été évacués dans leur totalité, évidemment à confirmer, tout ça, toutes ces informations sont toujours contredites assez rapidement, mais on peut dire quoi ? C'est quoi ? C'est la fin de la guerre en Syrie, là, aujourd'hui, 300 000 morts depuis 2011, où on est entré dans une nouvelle phase ?
C'est une nouvelle phase, c'est une nouvelle étape de la guerre. Cette guerre n'est pas terminée. Le problème Daesh n'est pas réglé.
Bien sûr, on va en
Daesh
parler dans un instant avec Palmyre.
Profiter d'Alep pour aller sur Palmyre. Puis vous avez encore des points de concentration de la rébellion. Prise au sens large.
Quand on parle de la rébellion, simplement, c'est toujours bien de réexpliquer. Vous parliez du front al-Nosra qui est né dans les années 2013, qui s'est implanté, les héritiers d'Al-Qaïda. Ce sont les mêmes, donc, et qui se sont durcis, qui se sont radicalisés.
Attendez, si c'était que ça, on serait tranquille, on arriverait à comprendre. Mais il faut bien comprendre que ce qu'on appelle la rébellion, les révolutionnaires, ou ce que Poutine appelle les terroristes, ça va de Syriens modérés qui voulaient, dès le départ, simplement de la liberté.
2011, et que ils ne voulaient que la liberté.
Un clan ultra-minoritaire arrête de régenter le pays. Donc des Syriens modérés, qui pouvaient être sunnites ou d'autres religions, ça peut être des Kurdes, des Turkmènes, des sunnites, et donc avec tout un camaïeu de salafistes, c'est-à-dire ceux qui sont partisans de déboucher sur un État islamique, mais qui existent ailleurs. L'Iran, c'est une république islamique. La Mauritanie, c'est une république islamique. Donc on a tout ce camaïeu, jusqu'au groupe djihado-terroriste, Al-Qaïda, rebaptisé Fatah al-Sham aujourd'hui, et puis Daesh. En sachant d'ailleurs que ces deux derniers groupes djihado-terroristes se sont largement entretués. Je le dis souvent, une bonne partie des Français djihadistes qui sont partis combattre ont été tués là-bas, non pas par les Syriens, par d'autres groupes, mais par Daesh. dans des combats intestins. Donc vous avez tout ce camailleux-là, et cela, ça reste en place. Juste un tout dernier point rapidement. Vous savez que cette semaine, le cessez-le-feu et l'évacuation a été bloqué par la reprise de combats. On sait aujourd'hui que c'est l'Iran qui a donné l'ordre à ses milices de casser l'accord, de tirer pour le briser. Pourquoi ? Parce que n'avait pas été incorporé dans cet accord l'évacuation de Syriens chiites blessés de deux villages qui se trouvent dans la province d'Idlib. Ouais. C'est pour vous montrer.
Au nord, près de la Turquie.
Voilà, voilà, exactement. Enfin, qui se trouve un peu plus au sud d'Alep, qui est au-dessus de l'Attaquié. Enfin, bon, qu'importe. Mais pour vous montrer que le patchwork est incroyable, puisque du côté des chiites, vous avez 5 ou 6 pays représentés.
Tout juste, bien sûr, parce que là, on parle beaucoup de Bachar al-Assad, de son principal allié, la Russie, donc, qui serait victorieux de cette bataille d'Alep. L'Iran également a clamé, a revendiqué sa victoire à force de communiqués, de déclarations officielles. L'Iran, très présent là-bas, il y a une force qui appelle la force Al-Quds, le Hezbollah libanais également, c'est une émanation de l'Iran directement.
Les Hazaras afghans, que je connais bien, si je puis dire, parce que j'avais travaillé sur eux en Afghanistan, également pakistanais, irakiens. Un nom, le général Soleimani.
Ouais,
le général Soleimani, c'est le proconsul de l'Iran dans la zone qui se balade de la Syrie à l'Irak depuis des mois et des mois pour structurer le pouvoir iranien dans la zone et contrôler les différentes milices. Et aujourd'hui, c'est le grand chef de guerre. Parce qu'on nous parlons tous de la Russie, parce qu'effectivement, c'est très important. Ouais. Mais l'Iran, aujourd'hui, sort victorieux. Et je peux vous assurer que du côté du clan sunnite de Riyad, qui voit la constitution, enfin le renforcement de cet arc chiite partant du Liban, la Syrie, l'Irak et l'Iran, vraiment, ça n'est pas de nature à apaiser
la tension. Et un petit peu de Liban avec le Hezbollah.
Et l'alliance contre nature pour les sunnites de la peste et le choléra, à savoir les orthodoxes chrétiens, les mécréants, les infidèles, avec les apostats chiites. Donc derrière toutes ces analyses, la lecture historique et religieuse est omniprésente. Et je le rappelle souvent, parce que nous, en Occident, on n'étudie pas l'histoire, on veut pas regarder l'histoire de ces peuples, et il faut se plonger dedans. Et encore une fois, c'est lourd de confrontations, de haine, de constructions mentales qui sont extrêmement puissantes et qui viennent renforcer l'analyse que je vous ai faite tout à l'heure sur les volontés. Voilà. Quelle est la volonté de l'Europe ? Je suis un défenseur de l'Union européenne. Quelle est la volonté de l'Europe aujourd'hui, dont on a un besoin énorme ? Elle est malheureusement la résultante des faiblesses des États qui la constituent.
Alors comment est-ce qu'on arrivait à une telle apocalypse à Alep, hein ? Alors en effet, une Europe absente, inexistante, une Russie qui ne veut plus se faire humilier, vous nous le disiez, donc... des rebelles qui se sont radicalisés, un régime aveugle et brutal, celui de Bachar al-Assad. Et puis des États-Unis, alors lâche ou pas, vous allez me le dire, Henri Landais, est-ce que Barack Obama va porter longtemps, comme une croix quelque part, sa non-intervention, sa décision de ne pas intervenir en août 2013, ce que rappelait très justement Pierre Servent, vous qui scrutez la politique américaine?
C'est sûr que la Syrie va être une tache noire du mandat de Barack Obama. Ce n'est pas la responsabilité unique des États-Unis, ce qui se passe en Syrie, mais ça a certainement exacerbé la situation que Barack Obama n'ait pu intervenir après l'usage des armes chimiques. Il y a eu une remise en cause, une remise en question par Barack Obama d'une politique étrangère, selon moi, excessivement militariste des États-Unis pendant plus d'un demi-siècle. Et les États-Unis, maintenant, et il faut se rappeler aussi l'intervention contre Mossadegh dans les années 50, ensuite en Amérique latine, partout, ensuite pendant les années 80, les années 90, le soutien à nombreux régimes totalitaires, le régime change, le changement de régime dans lequel était très impliqué la secrétaire Hillary Clinton, la CIA. Les États-Unis ont semé la violence à travers le monde aussi. Et on voit une remise en question de sa part, Barack Obama, un peu quand il fait son discours au Caire, où il dit que les États-Unis n'ont pas toujours eu raison. Mais la limite de cette remise en question, la limite de ce smart power, comme voulait l'appeler Hillary Clinton, c'est pas le pouvoir par la force, mais le pouvoir plus intelligent. La limite de ça, c'est comment on fait face ensuite à une Russie qui n'a totalement pas l'intention de se laisser faire, qui se souvient très bien de la guerre froide. On n'a pas du tout...
Il a voulu être trop prudent, c'est ça, Barack Obama?
Ben, c'était surtout, il ne pouvait pas utiliser son smart power dans tous les endroits de la planète. Et on voit très bien un affaiblissement des États-Unis, de sa crédibilité, de sa réputation. Et what goes around comes around, c'est une expression américaine. Les États-Unis paient d'une certaine manière pour ce qu'elle a fait pendant plusieurs décennies. Et il ne faut pas être amnésique là-dessus. Il faut très bien comprendre que nous sommes dans une situation que les États-Unis ont beaucoup provoqué à travers son intervention militaire et son impérialisme économique depuis des décennies.
Et on verra d'ailleurs justement d'ici une dizaine de minutes quelle sera la diplomatie sous Donald Trump, puisque vous le savez, donc il y a un nouveau secrétaire d'État qui a été nommé, Rex Tillerson, le patron d'ExxonMobil. Ce sera dans une dizaine de minutes. Oui, alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer justement? Que vont faire les vainqueurs? On a parlé des Russes, on a parlé des Iraniens. Et Bachar el-Assad, voilà, assez nonchalamment, comme si de rien n'était, ou presque, c'était jeudi, il affirmait que les Syriens écrivent l'histoire avec la libération de Alep. Bachar el-Assad.
Je voudrais vous dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'histoire que chaque citoyen syrien a écrite. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Cela a commencé il y a 6 ans, quand la crise et la guerre contre la Syrie ont débuté.
Qu'est-ce qu'ils vont faire, tout ce beau monde de leur victoire, les Russes, les Iraniens, les Syriens, le clan de Bachar el-Assad? Victoire, mais à court terme, comme peut-être, Pierre Servant.
Alors, la Pyrrhus, la question que vous posez est vraiment la très bonne question. Qu'est-ce qui se passe demain? Et là-dessus, les agendas ne sont pas exactement les mêmes. Et les psychologies ne sont pas exactement les mêmes. À mon sens, la Russie, Poutine... à ce qu'elle voulait globalement, c'est-à-dire remettre en selle le régime de Bachar qui, l'année dernière, lors de l'intervention russe, était au bord du collapse, de l'effondrement, le fait de redonner en quelque sorte à Damas la main sur ce qu'on appelle la Syrie utile, les 2/3 de la Syrie, de ce qui reste du poumon économique.
Les grandes villes, c'est ça, Homs, Hama, Damas, Alep, et puis la frange méditerranée, Latakia et Tartous.
Exactement, où les Russes ont construit une base aérienne en plus de la base navale. Donc je pense que l'objectif de guerre de Poutine, qui est toujours pour servir une politique, est atteint. Donc lui a intérêt aujourd'hui, c'est pour ça qu'il avait intérêt au cessez-le-feu, a intérêt de passer maintenant la main à la diplomatie. Parce que c'est vraiment le rapport de force. Vous arrivez à la table de la diplomatie en disant, voilà, moi je suis le maître de ça, maintenant on discute. Entre parenthèses, c'est aussi la position de Trump en tant que dealer-maker, de faiseur de deal. C'est-à-dire que vous faites le deal en arrivant, en faisant déjà peur à l'adversaire, en mettant très haut la barre, en disant, attendez, vous avez vu mon big stick, qu'est-ce que je représente? Et après on négocie, parce que vous redescendez toujours un petit peu, mais vous êtes plus haut. Donc là, il a cet intérêt-là. Les Iraniens, c'est pas certain, les Iraniens attendent de savoir ce que Trump va faire par rapport au nucléaire. L'accord nucléaire.
Et vous, 2015,
et vous avez vu que l'Iran brandit la menace de faire des recherches pour avoir des réacteurs nucléaires pour certains types d'armements, ce qui pourrait apparaître comme une façon dérivée de revenir. Donc là, on est sur menace contre menace. Question, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et le dernier problème, c'est que moi, ma conviction intime, pour avoir beaucoup travaillé sur les Alaouites, qu'est-ce que c'est que cette secte chiite des Alaouites? 10% de la population, juste pour le rappeler, c'est une secte donc chiite qui a toujours été considérée par les chiites comme par les sunnites comme une secte déviante, parce que dans leur culte, notamment, ils amalgament des choses qui viennent de la chrétienté, et dans l'histoire de l'islam, il y a toujours eu des fatwas pour dire à tout bon musulman tuer un alaouite. Tout ça pour dire que les alaouites viennent du rebut, c'est le lumpenprolétariat de l'islam depuis la nuit des temps. Ils ont pris le pouvoir parce que l'armée française leur a permis, lors du mandat français, d'accéder au poste de sous-officier, et ils ont retenu, je vous parlais du général Souleymani pour les Iraniens, eux ils ont retenu un nom, les alaouites, Bonaparte. Comment on fait pour prendre le pouvoir quand on est général? Ce qu'a fait le père de Bachar. Et donc, Bachar ne lâchera jamais le pouvoir. En tout cas, c'est ma conviction profonde.
Bon, c'est quoi la suite? Il y a Idlib, autre fief rebelle, un petit peu plus au nord.
Le sud aussi, près de la frontière jordanienne.
Le sud. Raqqa, où est-ce qu'on en est justement? Raqqa, c'est la capitale, entre guillemets, capitale politique de l'État islamique.
Alors, vous avez raison de le citer, parce que Raqqa, ça fait partie des cartes de Poutine.
Ouais.
Il a deux possibilités. Soit proposer à Trump... conjuguons nos efforts pour attaquer Raqqa et Poutine sera blanchi des accusations de Samantha Power qui vit ces dernières semaines. Soit cette carte-là, pour sortir par le haut politique, Poutine est un politique, c'est un KGBiste, un gars du KGB, mais c'est aussi un politique. Ou l'autre option, c'est de dire, Trump a expliqué qu'il reprendrait Raqqa en trois coups de cuillère à peau, on va le laisser se planter à Raqqa, et quelle va être la preuve des événements? C'est qu'à Mossoul, la coalition dirigée par les Américains n'arrive pas à prendre à Mossoul dans des délais raisonnables, et à Raqqa, les Américains se plantent. Qui est le the king of the world? Quel est le roi du monde aujourd'hui? Vladimir Poutine.
Alors, Raqqa aux mains de l'État islamique et depuis le week-end dernier, Palmyre à nouveau. Et on se souvient comment, justement, la Russie avait orchestré, au sens propre comme au sens figuré, la reprise de la ville par l'armée syrienne. C'était au mois de mai avec ce concert, donc, dans les ruines de la cité antique. Hein. Juste un mot, Pierre Servent, ou le stratège, vraiment un mot promis. Hein. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est quoi? C'est la fatigue des troupes syriennes, la mobilisation autour d'Alep, un sursaut des djihadistes, quelque part. Le fait que finalement, on peut pas mener deux fronts en même temps. Hein. Et la question pourrait se poser également à Mossoul, en Irak, avec les troupes irakiennes qui sont crevées, justement, et qui peuvent pas avoir de renfort venu de Damas, parce que si on de Bagdad, parce que si on déshabille Bagdad, avec le risque que ça tombe. Donc on l'a vu, voilà, Palmyre est tombée parce que on se concentrait sur Alep.
Voilà, c'est pour ça que je suis très très court. Vous avez tout dit dans votre question.
Il y a
Non, pas du tout, parce qu'à la façon de poser la question avec subtilité, vous apportez tous les éléments. Juste deux points très très rapides. Le problème de Daesh, c'est qu'ils sont à court d'argent et d'armes. Et que à Palmyre, par leur service de renseignement, ils savaient qu'il y avait des dépôts d'armes, et donc ils ont fait un réseau, c'est-à-dire une opération commando, pas avec 5000 hommes, c'est 600, 700 combattants très rapidement. Et puis ce raid-là a été doublé d'un raid sur les champs pétroliers. Les Américains ont détruit plus de 160 camions citernes qui allaient chercher du pétrole parce que Daesh est à sec de ces deux côtés. Donc ils ont vraiment des stratèges qui sont très mobiles. Et puis Palmyre, cerise sur le gâteau, c'est que pour eux c'est l'assurance que le monde entier parle de ce qu'ils ont fait parce que c'est Palmyre et c'est l'action psychologique. Donc ils sont en position de
faiblesse. Ça va leur permettre à nouveau de recruter.
Exactement.
Malgré leur déroute. Voilà, ça et là, c'est une source américaine qui révélait que 50 000 djihadistes ont été tués depuis août 2014 par les frappes aériennes. Et juste un mot encore, puisque là, on va reparler des États-Unis dans un instant avec Henri Landès qui nous accompagne aussi. Hein, je vous oublie pas, Henri. L'État islamique qui revendique l'attaque dimanche contre l'église copte Saint-Pierre-Saint-Paul au Caire, faisant une vingtaine de morts. Bon, c'est pas la première fois que sont victimes les chrétiens d'Égypte. Hein. L'État, aux mains du maréchal Sissi, qui avait été soutenu justement par cette minorité chrétienne, elle les protège suffisamment, à votre avis, Pierre Servent?
Alors, la preuve que non, en même temps, c'est extrêmement difficile de faire face à tout. Il faut quand même rappeler que l'Égypte est frappée très régulièrement. C'est-à-dire que la semaine dernière, vous avez eu, je crois, 14 ou 15 policiers qui ont été tués par un kamikaze.
Coup dur alors que les touristes semblent revenir en Égypte.
Voilà, la suite Daesh sait très bien ce qu'il fait. Et il faut savoir que Daesh, dans ses communiqués, dans sa communication, cite toujours en exemple le groupe de combat du Sinaï qui s'est affilié à Daesh et qui est extrêmement actif depuis le départ, qui tue des procureurs, des généraux, des policiers, des chrétiens coptes et qui tire des missiles sur des bâtiments au large en Méditerranée.
Et qui avait fait exploser un avion russe en plein vol.
Absolument.
A priori, il y a un an.
Donc il y a vraiment là un groupe. Et ce qui fait que c'est compliqué parce que nous devons soutenir Al-Sisi, qui par ailleurs, sur le plan des droits de l'homme, est tout sauf un parangon de vertu.
Bon, 7 jours dans le monde, on va retrouver Pierre Servent dans un instant, plus Henri Landès hein, qui vous propose Allo Houston. Tiens, l'économie va-t-elle inspirer la diplomatie américaine sous Trump? C'est une des questions qu'on se posera tout de suite. Hein.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Toujours avec nous, il y a Pierre Servent, donc historien, journaliste, expert stratégique, expert militaire, qui vous propose son roman, premier roman, Le Testament Aulic, A-U-L-I-C-K. Et puis Henri Landès, qui est maître de conférence à Sciences Po Paris, américain, franco-américain, auteur de Allo Houston. Tiens, justement, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce que les Américains ont élu un président comme Trump? Quand je dis ça, c'est pas du tout un jugement de ma part. Hein. Simplement, c'est vrai qu'il y a eu un choix inédit, Hillary Clinton contre Donald Trump, alors que les appareils démocrates et républicains auraient évidemment voulu probablement d'autres noms l'un en face de l'autre. Alors, dans un mois, Trump, il va s'installer à la Maison Blanche, son équipe est fin prête, hein, ça lui a pris 3 semaines du haut de sa Trump Tower. On va revenir dans un instant sur le cas spécifique hein, du secrétaire d'État, le chef de la diplomatie, Monsieur Tillerson. Alors, Il n'y a pas de Ted Cruz, il n'y a pas de Mitt Romney. Il y a beaucoup de sociétés civiles, beaucoup de grands patrons, des banquiers, des militaires. Je ne vais pas faire la liste, hein, bien entendu, mais Henri Landès, la tendance, c'est que c'est blanc, c'est masculin, c'est conservateur. Hein, c'est comme ça ?
Absolument, très conservateur. En ce qui concerne l'idéologie des personnes qui sont nommées par Donald Trump pour son futur cabinet, si c'est des membres du Parti républicain, c'est la branche extrême droite du Parti républicain. Le Parti républicain modéré a principalement déserté Donald Trump pendant la campagne. C'était pas l'alliance entre les républicains du Congrès, les plus modéré et Donald Trump pendant la campagne, et ça se dévoile maintenant en ce qui concerne ses choix dans le cabinet. Mitt Romney aurait été quelqu'un de plutôt modéré relativement à tous les autres personnages dans son cabinet. Il y a beaucoup de milliardaires et de millionnaires dans son cabinet. Il est allé chercher des patrons de plusieurs secteurs de l'économie qu'il estime être profitables, l'énergie fossile, la finance, même s'il avait dit qu'il voulait évacuer l'argent.
Beaucoup
privé.
De Goldman Sachs, ouais, en effet.
Beaucoup de Goldman Sachs.
En effet, monsieur
le secrétaire du Trésor.
Voilà.
Voilà, Chine qui vient de Goldman Sachs. Bannon, son stratégiste principal, est aussi quelqu'un qui a travaillé dans la finance pendant un petit moment, et à Hollywood. Donc l'idée que Donald Trump véhiculait « je serai la personne qui va un peu assainir la politique américaine, séparer un petit peu le système élitiste de Wall Street et les lobbies et Washington », ça se dessine pas trop pour l'instant. Il y a plusieurs membres du cabinet qui, quand on regarde un petit peu leur position, d'une certaine manière ne croient pas en la mission du département qu'ils vont diriger. C'est-à-dire que Betsy DeVos, par exemple, va être en charge de l'éducation. Elle a dit à plusieurs reprises, elle, pendant toute sa carrière, ne pas croire en l'éducation publique. Elle a été une opposante à l'éducation nationale et à l'éducation publique. Elle est plutôt pour l'éducation privée, l'éducation à la maison.
Le millionnaire du Michigan.
La personne qui l'a nommé pour diriger l'Agence de protection de l'environnement est un climato-sceptique, un allié de l'énergie fossile. Pour protéger l'environnement, il faut d'abord penser que l'environnement est en train de se dégrader. Rick Perry, qui potentiellement serait le secrétaire à l'énergie, avait dit pendant la campagne la dernière fois, en 2012, je supprimerai le département de l'énergie. Alors ce qui était assez drôle d'ailleurs, c'est dans un débat, il a oublié quelle était l'agence qu'il voulait supprimer, c'était celle-là. Mais bon, ça ne serait-ce qu'il y a des personnes qui ne croient pas trop à la mission de leur département.
Mais alors, on est bon dans les affaires, on est bon dans le business, on voit, c'est millionnaire, c'est milliardaire quelque part. Donc on peut être bon dans la politique. C'est un petit peu le credo de Trump.
C'est sûr que Donald Trump pense pouvoir gérer le pays un peu comme une grande entreprise.
Certains parlent de firme Trump depuis quelques jours.
Oui, de firme Trump. Et il a nommé un secrétaire d'État qui justement est un patron d'une grande entreprise. Ce qui montre à quel point il a une vision aussi de la géopolitique, des relations internationales, d'un point de vue plus économique. C'est un négociateur.
C'est-à-dire quoi, la question que je posais, l'économie finalement va diriger la politique, va diriger la diplomatie, c'est ça ?
Je pense que Donald Trump voit un petit peu son rôle de négociateur qu'il a en tant qu'expérience dans le monde économique comme quelque chose qu'il peut ensuite transposer dans les relations internationales. Il voit beaucoup en sa capacité à lui à s'impliquer dans les dossiers économiques comme les dossiers de relations entre diplomatiques. Il s'implique d'ailleurs en l'annonçant aussi ce qu'il fait sur Twitter. Il veut vraiment, c'est beaucoup plus auto-centré qu'auparavant, et on va voir beaucoup plus cette idée chez Donald Trump. Si moi je dis que cette entreprise va faire cela ou elle ne fera pas cela, comme Carrier dans l'Indiana où il a dit non, vous allez rester et vous n'avez pas délocalisé une partie de votre activité. C'était bien exagéré, mais il a fait son coup sur Twitter, etc. Je pense qu'il peut aussi avoir cette approche pour la diplomatie. Ce qu'il fait un petit peu avec la Chine et sa politique avec la Chine, ce qu'il fait avec la Russie et ce qu'il dit sur Poutine. Un petit mot là-dessus, ce qui est intéressant, et je reviens sur ce que disait Pierre, qui était très juste, c'est Donald Trump a montré tout au long de sa campagne qu'il voulait un rapprochement avec la Russie. Quand dans les options qu'on a évaluées être possibles pour la Russie et pour cette sortie en Syrie et cette crise en Syrie, on voit bien que Donald Trump n'est pas exactement le contraire d'une marionnette pour Poutine. On voit pas beaucoup de marge de manœuvre pour lui. Et la politique qu'il a surtout mise en avant, c'est rapprochement avec Poutine pour combattre Daesh, pour combattre le terrorisme. Or, on va pas nécessairement dire que Poutine et Assad sont les opposants à Daesh pour l'instant les plus fulgurants. C'est pas, et qu'est-ce qui est grave dans tout cela, c'est que est-ce qu'on ne peut pas dire que les tactiques utilisées par Assad et les tactiques de Poutine ne sont pas justement une arme de recrutement pour des organisations terroristes telles que Daesh? Donc Donald Trump montre une incompréhension totale, selon moi, de la politique étrangère et de cette crise en Syrie.
Rex Tillerson, le patron d'ExxonMobil, donc, qui a été nommé, on a tout entendu sur lui, hein, qu'il aurait été nommé en raison de ses liens avec Moscou, avec Poutine. C'est quoi vraiment la réalité en irlandaise? Parce que quand on est dans le pétrole, clairement, à un moment, on rencontre des dirigeants russes. Ouais. Je suppose que M. Pouyanné, le patron de Total, a rencontré également Vladimir Poutine. Ouais. Il a été nommé vraiment pour ça, parce qu'il est très proche de Poutine, ou il le connaît parmi d'autres?
Je pense que ça montre la vision qu'a Donald Trump du monde d'aujourd'hui, de cette question de l'économie, de l'énergie fossile, certes. Mmh. Et d'ailleurs, je vais faire un point là-dessus, parce que c'est important de le rappeler. L'énergie fossile, donc, c'est le domaine d'activité de Rex Tillerson. Depuis 1975, c'est pas comme s'il avait un CV très diversifié.
Il a fait toute sa carrière.
Toute sa carrière à ExxonMobil. C'est forcément une entreprise qui a eu donc des activités en Russie, qui avait programmé avant les sanctions d'avoir des projets en collaboration avec des entreprises russes dans l'Arctique russe, en Sibérie, etc.
Depuis 5 ans, il y a eu une dizaine de partenariats avec Rosneft. Hein. Il connaît bien le territoire.
Exactement. Et la volonté de faire cette transition énergétique hors du fossile est totalement remise en question par Donald Trump, qui a des propos climato-sceptiques, qui a dit même récemment, après la campagne, où il a été climato-sceptique pendant la campagne, maintenant il dit personne ne saura jamais si le changement climatique est en effet dû aux activités humaines. Juste un point sur la Syrie, justement, et le monde entier, et l'énergie fossile, le climat, le changement climatique et les dégâts. Il y a eu près d'un million de personnes en Syrie qui ont dû migrer à cause de sécheresse, à cause de, selon plusieurs experts, des effets du changement climatique, qui ont une sorte d'exode rural qui n'a pas causé les violences, certainement pas, mais qui les ont exacerbées dans les zones urbaines une fois que ça a éclaté. Mmh. Il y a 26 millions de personnes à travers le monde qui migrent à cause de catastrophes naturelles déjà aujourd'hui. C'est plus que de nombre de personnes qui migrent à cause de conflits armés, etc. Le fait de dire que le changement climatique n'est pas un problème est totalement absurde, notamment parce que l'armée américaine est peut-être l'organisation la plus avancée sur la prise en compte du changement climatique. L'armée américaine a totalement développé une stratégie de comment est-ce que nous nous adaptons aux effets du changement climatique à travers le monde et comment est-ce que nous consommons de l'énergie renouvelable sur nos bases à travers le monde. Donc c'est totalement absurde cette position de Donald Trump.
Pierre Servant.
Absolument passionnant tout ce que je viens d'entendre. Je rajouterai deux points différents. Le Sahel, la bande sahélo-saharienne, où la France est très engagée dans le dispositif Barkhane pour lutter contre le djihadoterrorisme. Les problèmes de sécheresse, le fait que toutes ces dernières années, vous avez eu une intensification de la sécheresse dans ces régions-là, ça les a déstabilisés profondément et ça a ouvert des voies de pénétration supplémentaires pour Daesh. Donc ces questions climatiques sont stratégiques. Absolument. Donc vraiment, je vous rejoins tout à fait. Le second point par rapport à Poutine. On se berce un peu d'illusions quand on dit il faut parler avec Poutine, il faut le faire, personne connaisse Poutine, ce qui est très très bien. Mais Poutine, c'est une bête politique. Il a une stratégie politique. Bien sûr, il faut discuter. Mais juste un exemple. On disait à une époque qu'Angela Merkel parviendrait à convaincre Poutine. Pourquoi? Parce que Poutine parle allemand. Il a été membre du KGB à Dresde, en Allemagne de l'Est, et que Angela Merkel parle russe. Et donc, on se disait, bon, c'est vrai que c'est difficile avec François Hollande, etc., mais eux deux vont pouvoir s'entendre, parce que déjà, ils parlent la même langue. Angela Merkel a fait des confidences en disant, c'est impossible de parler à Poutine si on ne rentre pas dans la vision poutinienne. Et le problème, c'est que le monde d'aujourd'hui, le monde selon Trump, le monde selon Poutine, le monde selon Erdogan, le monde selon Xi Jinping, le président chinois, ce sont des visions fermées qui ne sont pas dans l'altérité, qui acceptent l'autre dès lors qu'il rentre dans le projet politique. Et donc c'est avec ce monde-là, ce nouveau monde, c'est en ce sens que je ne cesse de dire que l'histoire est de retour et il faut qu'on mette les mains dedans pour la faire. Parce que je peux vous assurer qu'il y en a d'autres, tous ceux qu'on a cités, qui ont des idées très très précises sur ce qu'ils veulent faire.
Extension du domaine de la guerre, c'était l'avant-dernier, c'est le dernier essai en fait de Pierre Servant, il explique tout, hein, toujours d'actualité, il est sorti donc au mois de février, au mois de mars dernier. Juste un mot, il aura les mains libres ou pas, Rex Tillerson, ou Donald Trump finalement s'est déjà accaparé la diplomatie américaine avec des tweets tous azimuts sur le Royaume-Uni, sur la Chine, sur Taïwan, sur plein d'autres trucs. Henri Landais.
Je pense que s'il y a un enseignement de ces nominations de cabinet, c'est que Donald Trump est beaucoup moins influent et puissant qu'il ne le pensait pendant la campagne. Les secrétaires d'État, les secrétaires ont un rôle important. Ils ont un petit peu les mains libres. Certes, Donald Trump va essayer de montrer que c'est lui le patron, mais déjà, il s'est fait beaucoup influencer par une branche très extrême du Parti républicain dans les nominations. Et aussi, il n'avait pas énormément de choix dans ses nominations. Donc, je pense qu'il y a absolument une analyse très, très précise à avoir sur les positions et les profils des personnes qui vont mener l'exécutif américain.
Reste à savoir si le Sénat validera la nomination de Rex Tillerson, parce qu'on sait qu'un certain nombre de républicains sont extrêmement méfiants, justement, sur le côté pro-russe du futur chef de la diplomatie américaine. Juste un mot, puisqu'on parlait de Donald Trump, le roi du tweet, hein, il avait pris pour cible, il y a 10 jours, Boeing, parce qu'il considérait que le prix du futur Air Force One était trop élevé. Eh ben, rebelote, hein, cette semaine, avec le chasseur bombardier F-35 de Lockheed, un programme hors de contrôle, dénonçait-il donc Trump. Il promettait des économies. Chute du cours de bourse, hein. On parle d'un programme quand même de 400 milliards de dollars, Pierre Servent, pour le Pentagone. On dit ces chasseurs beaucoup plus efficaces que les chasseurs actuels. Bon, très bien, il y a du souci malgré tout sur ce programme ou pas?
Honnêtement, moi, je ne crois pas. Encore une fois, comment dirais-je, les personnages dont on a parlé, il faut étudier leur psychologie, leur passé, leur histoire, d'où ils viennent, leur enfance, ce qu'ils ont fait et comment ils sont câblés. Trump, c'est un gars qui fait des affaires. Donc on lui présente une facture sur l'achat d'un programme immobilier, etc. Il dit, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est trop cher. Bon, et donc il met la pression. Et derrière, il va en résulter quelque chose. Le programme sera maintenu, mais les industriels vont devoir faire des économies, surtout après la pression qu'ils ont eue en disant « si on ne le fait pas, il va nous ressortir un tweet, on va encore perdre en cours de bourse ». Donc voilà, donc je crois qu'il faut s'habituer à ce type de management. C'est un homme qui fait des deals. Et avec la Chine, c'est exactement ça. Il appelle Taïwan parce qu'il met une pression d'enfer sur
Taïwan. C'est Taïwan qu'il a appelé et il a pris la communication.
Et donc, ça n'est pas, il ne parlera pas de diplomatie, il ne parlera pas guerre, il parlera business militaire, business diplomatique.
La Russie, avec des soupçons, hein, c'est la CIA qui voit des ingérences de Moscou dans les élections présidentielles américaines cet automne. Accusation mise en doute, d'ailleurs, par le vainqueur, Donald Trump, hein, quand même, le futur commandant en chef. Moscou nie évidemment, mais Obama, Barack Obama, il met en cause Vladimir Poutine dans les piratages informatiques qui ont perturbé l'élection présidentielle et l'annonce des représailles.
Il est clair que si un gouvernement étranger, quel qu'il soit, tente d'entacher l'intégrité de nos élections, alors nous devons agir. Et nous le ferons au moment et où nous le déciderons. Certaines de ces représailles seront explicites et publiques, d'autres ne le seront peut-être pas, mais M. Poutine connaît très bien mon ressenti à ce propos, car nous en avons directement parlé.
Henri Landais, qu'est-ce qui s'était passé, justement, Hillary Clinton, elle avait été délibérément visée, à quelle fin, de quelle manière, ça a pu changer le cours de l'élection?
Il y a eu des emails qui ont été donc récupérés, hackés, par Poutine, selon le CIA, et maintenant selon l'administration Obama, qui des emails du Parti démocrate, notamment du directeur de campagne de Hillary Clinton, John Podesta, mais aussi de l'ancienne directrice du Parti démocrate, qui ont été donnés à WikiLeaks. Les accusations de certains dans le Parti démocrate et de l'administration Obama, c'est que maintenant, et on sait que les emails qui ont été hackés du côté républicain n'ont pas été livrés à WikiLeaks. Et donc, la CIA et l'administration Obama dit que c'était une intervention du hacking par Poutine en vue d'influencer l'élection. Le FBI n'est pas vraiment d'accord.
Ça a influencé ou pas l'élection?
On va voir. Ouais. On va voir quelles sont les analyses précises. Ouais. C'est difficile de juger quel aurait été l'effet sur les électeurs.
Et vous nous dites que le FBI n'est pas d'accord avec ce que dit la CIA?
Le FBI dit qu'il n'y a pas suffisamment de preuves. Ouais. Le FBI est beaucoup plus, c'est un petit peu lié à sa mission historique, beaucoup plus regarder qu'est-ce qui peut être prouvé en cours de justice, notamment parce qu'il est lié aux autorités policières des États-Unis. Donc le FBI dit que les preuves sont insuffisantes, alors que le CIA, qui est beaucoup plus focalisé sur aller chercher des renseignements et ensuite donner des conseils, lui dit justement il y a suffisamment de preuves et il faut agir.
Et c'est quoi les moyens de rétorsion? À quoi ça pourrait ressembler, une cyberguerre avec Moscou?
Ça pourrait ressembler à encore des sanctions économiques, durcissement des relations diplomatiques politiques affaiblies encore plus qu'elles ne le sont. Difficile de voir quelles sont les représailles. On va pas non plus parler de refaire l'élection présidentielle américaine. J'imagine que ce serait difficile. Mais donc, c'est une situation un peu compliquée pour les Américains. Le pays de la liberté, tout d'un coup, voit que Poutine met sa main dans les élections américaines. Difficile de savoir la suite.
7 jours dans le monde. On y revient d'ailleurs dans un instant. Toujours avec Henri Landès, avec Pierre Servant. Et puis la France aussi, qui va se doter d'une nouvelle arme. Hein. Air, terre, mer et cyber à présent. À tout de suite.
BFM Business, 7 jours dans le monde.
Maman, maman, je sais ce que tu vas m'offrir pour Noël.
Marie-Amélie, tu as déjà absolument tout.
Oui, mais je veux un vrai cachemire.
Mais tu en as déjà plein des cachemires.
Oui, mais cette fois-ci, c'est un vrai cachemire que je veux. De chez Richard Grand. Richard Grand, le vrai cachemire. 229 rue Saint-Honoré, à deux pas de la place Vendôme. RichardGrand.com, mon plus beau cadeau de Noël.
Demain, 20h50 sur RMC Découverte. Bienvenue dans le Nouveau Monde. Et si des hommes avaient découvert l'Amérique bien avant Christophe Colomb? Pourquoi ces explorateurs ont-ils été oubliés? Qui étaient ces aventuriers? Grands explorateurs, découverte de l'Amérique. C'est demain, dès 20h50 sur RMC Découverte. Plus fort que la fiction, Canal 24.
Impayés, dépôt de bilan, liquidation, délai de paiement. Au lieu de vous taper des problèmes avec vos entreprises partenaires, tapez verif.com. Chiffres clés, dirigeants, bilan. Vérifiez la santé financière des entreprises sur verif.com.
Allez, je suis rentré. Et devine ce que j'ai ramené.
Oh ouais, un sapin de Noël.
Et cette fois, j'ai tout prévu, hein. Les guirlandes et même la petite étoile.
Et
bah, le
plus important, papa.
Bah quoi?
Pour emballer et décorer le sac à sapin.
Ah.
Une touche de magie pour le sapin de Noël.
Pour chaque sac à sapin acheté, 1,50€ contribue à financer les actions de Handicap International.
À la recherche d'un produit high-tech? Soyez cool et smart. Retrouvez le meilleur des tests high-tech sur 01net.com.
Quel est l'impact réel du Brexit sur l'économie européenne? Peut-on encore se fier aux sondages? Comment une vidéo de chat peut-elle être vue 227 millions de fois? L'actualité soulève beaucoup de questions, mais il y en a une que nous nous posons sans cesse. Et vous dans tout ça? Le Parisien, tout vous concerne.
Le Parisien, aujourd'hui en France, nouvelle formule. Désormais, retrouvez BFM Business gratuitement à la télévision, exclusivement sur les box internet, le câble et le satellite.
Avant, il y avait la machine à vapeur qui arrivait et puis on avait 20 ans pour s'adapter. Aujourd'hui, c'est la rapidité.
Chez SFR, sur le canal 68.
La seule façon dans une activité économique de savoir si on fait le bon prix, c'est de mettre les gens en concurrence.
Chez Numéricable, sur le canal 59.
Mais l'inflation, c'est quand même la plus belle invention de notre système. C'est celle qui permet, en ruinant le rentier toutes les deux ou trois générations, de revoir le partage capital-travail.
C'est le rêve.
Génial, l'inflation.
Chez Orange, sur le canal 228.
On a des chômeurs dans une quantité qui est insupportable. C'est ça qu'il faut régler.
On ne peut pas changer de thermomètre. Non, c'est pas possible.
BFM Business par satellite, chez Canal, sur le canal 108.
L'état du pays exige des réformes fortes.
BFM Business Télévision, toute l'actualité économique en images.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Oui, avec toujours Henri Landès qui nous accompagne. Il est maître de conf à Sciences Po Paris, puis Pierre Servant, donc l'expert militaire justement. Tiens, je voudrais qu'on revienne quand même sur cette cyberguerre qu'on a abordée il y a quelques instants, avec ces accusations de Barack Obama contre la Russie. Est-ce qu'ils sont venus perturber le cours de l'élection américaine? Les Russes, est-ce qu'ils ont un coup d'avance en matière de cyberguerre? Pierre Servant, on a l'impression qu'ils sont très actifs. Ce ne sont pas les seuls à être très actifs. Mais quoi, il y a un savoir-faire des ex-KGB ou des héritiers du KGB dans la cryptographie et donc maintenant dans la cyberguerre?
Absolument. Il y a deux éléments forts. C'est vrai que les Russes sont très forts en cryptographie. Enfin, le système russe et soviétique était très délié dans ce domaine-là. Et ils ont investi très tôt dans la cyberguerre, la cyberoffensive. Rappelez-vous que lors de la guerre de Géorgie, donc 2007, si je ne me trompe pas.
2008,
pardon.
C'était pendant l'inauguration des Jeux Olympiques.
Absolument,
de Pékin.
En 2008, L'offensive russe militaire a été précédée d'une cyberattaque qui a désorganisé l'état-major géorgien. Il faut savoir aujourd'hui que quand vous
Ils ont fait la même chose en Estonie aussi, dans les pays baltes, qui commençaient à regarder un peu trop du côté de l'OTAN.
Depuis longtemps, ils ont développé ça. Les Chinois aussi, les Américains, les Français, les Européens étaient un peu plus en retard. Et à propos des Russes, on parle beaucoup des trolls. Donc les trolls, ce sont ces personnages qui font du hacking, souvent à partir de Kaliningrad, Königsberg, enfin donc cette
qui est l'enclave russe au milieu de l'Union européenne entre la Pologne et la Lituanie, au bord de la Baltique.
Voilà. Et là, donc, vous avez des équipes qui bossent, qui font de l'intrusion, de la déstabilisation. On leur prête, par exemple, ce qui s'est passé pour TV5 Monde, également où il y a eu un hacking majeur. Ouais. Et donc, ces trolls sont extrêmement actifs. Et c'est vraiment, ils sont très à l'aise parce que finalement, le mode de fonctionnement, l'ancien mode de fonctionnement soviétique, de déstabilisation, d'action indirecte, par des moyens qui étaient lourds par rapport à aujourd'hui, correspond à ce qu'ils ont aujourd'hui, donc ils sont effectivement très actifs. Et dans ce qu'a dit Barack Obama, parce que je vois pas tellement, il va pas avoir le temps de faire des mesures de rétorsion, mais s'il suit la CIA, c'est-à-dire pas le FBI, qui lui a des...
Vous devez, comme disait Henri Landais, bien sûr.
Mais là, il peut très bien, les Américains peuvent parfaitement introduire des virus dans les systèmes russes. Il faut se souvenir que le programme nucléaire iranien avait été pollué par un virus Stuxnet qui avait été infiltré dans des outils informatiques russes au départ. Et comme c'était ces Russes qui faisaient la maintenance du système qui était consacré au nucléaire iranien, les Russes, sans le savoir, ont pollué et ont détruit une partie du programme. Mais l'étape précédente, c'était l'infiltration d'outils informatiques russes. On peut avoir, avant le départ d'Obama, une mesure de rétorsion attaquant. Ça peut être la finance russe, ça peut être d'autres
systèmes. On va donner les cibles à l'avance de toute façon, sûr. Henri Landais, c'est pas risqué quand même pour Donald Trump quand même de décrédibiliser la CIA alors qu'il va rentrer à la Maison-Blanche dans un mois?
Donald Trump a réussi pendant l'espace d'un mois et demi à se mettre à dos le directeur du FBI et puis la CIA. Donc c'est assez intéressant comment lui, il semble être au-dessus de toutes les institutions américaines.
Pierre Servent, on parle des Russes. Attention, ce ne sont pas les seuls. Hein. Les Américains, ils savent très bien faire ça aussi. Les Chinois, ils savent très bien faire ça aussi.
Tout à fait. Et la France, donc, s'y met. Le changement, c'est que maintenant, la France, Jean-Yves Le Drian, qui a toujours attaché une grande importance, qui a vraiment boosté, dynamisé ce domaine, mais il y avait une pudeur langagière en France. On parlait de cyberdéfense. Maintenant, on parle de cyberattaque
ou offensive.
Et vous savez quelle est l'une des cibles qui est attaquée depuis des mois? C'est Daesh. Ouais. Car un des outils majeurs de pénétration de Daesh, c'est le cyber, la cyberattaque, la cyberpropagande, et la France a développé, c'est pas un secret d'État, on peut le dire, depuis déjà plusieurs mois, des cyberattaques sur les systèmes de Daesh.
Oui, alors ça a été officialisé cette semaine par le ministre Jean-Yves Le Drian, donc d'en faire quelque part une quatrième arme, hein, après la marine, après l'armée de l'air, après l'armée de terre, bien sûr. 2600 hommes, 2600 combattants numériques, hein, qui vont être placés sous l'autorité d'un vice-amiral. La France va consacrer 1 milliard d'euros, donc, d'ici 2019, hein, tout au long de la loi de programmation militaire. Donc, en effet, il y avait la défense, il y aura l'attaque, c'est-à-dire que, à l'instar que de lancer un missile, on pourra lancer donc une attaque numérique.
Absolument. Alors, vous avez eu la gentillesse de citer Extension du domaine de la guerre, donc qui est sorti il y a plusieurs mois.
Il y a tout un chapitre là-dessus.
C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une opération militaire aujourd'hui, mais déjà depuis plusieurs mois, est construite, vous avez différents modes d'action, différents outils, et le cyber est intégré à chaque fois. Il y a à chaque fois une réflexion. Qu'est-ce qu'on fait en matière de cyber? Donc effectivement, c'est la quatrième armée derrière les trois autres que vous avez citées, et ça va se développer de plus en plus. Et il faut rappeler que les Américains sous l'administration Obama ont modifié leur doctrine il y a déjà 6-7 ans, en expliquant qu'un Pearl Harbor, un cyber Pearl Harbor, c'est-à-dire que s'il y avait une attaque majeure dans des systèmes sensibles touchant au nucléaire militaire américain ou autre, de la nature de Pearl Harbor en termes de traumatisme, eh bien, cela pourrait valoir au pays identifié soit une cyber réponse, soit une réponse militaire classique.
Voilà, bien sûr. Voilà. Oui, Henri Landais.
Oui, absolument. Ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump n'a pas non plus le Congrès avec lui sur sa position vis-à-vis de Poutine, etc. La plupart des personnes au Congrès, la plupart des institutions américaines pensent que la Russie ne veut rien de bien pour les États-Unis. Voilà, voilà. Ils sont en train de faire une investigation justement sur le rôle de la Russie dans les élections à cause de son hacking. Donc c'est très très difficile de comprendre comment Donald Trump va s'en sortir, et c'est une cause d'inquiétude dans les années à venir.
Pierre Servan, un mot pour terminer, on va se quitter, on va se dire au revoir dans un instant, mais lorsqu'on répond, la question aussi c'est d'identifier aussi la cible, l'origine. Et on sait qu'en matière de cyberguerre, c'est pas toujours évident. Hein.
Voilà, d'où les réticences du FBI, voilà. Parce qu'effectivement, vous avez différents écrans, et c'est le problème d'arriver à remonter véritablement sur le commanditaire. C'est justement là la force du cyber. Vous pouvez frapper, déstabiliser, détruire. Vous pouvez faire exploser une centrale nucléaire ou des réserves de puits de pétrole, ou détruire une partie du programme nucléaire iranien. Sans laisser de traces, puisque même aujourd'hui, on ne sait toujours pas si ce sont les Israéliens, les Américains et les Israéliens. On ne le sait pas sur cette attaque-là.
Passionnant. Merci Pierre Servan avec nous. On va le rappeler, donc Le Testament Holique, son premier roman, donc en vente maintenant depuis 2 semaines. Hein. Pierre Servan qui nous accompagne dans 7 jours dans le monde régulièrement. Il est expert stratégique, et puis j'étais content d'accueillir pour la première fois Henri Landès, qui vous propose Allo Houston, les États-Unis vus par un Américain en colère, Américain qu'il est. Il est maître de conf à Sciences Po Paris. C'est fini pour 7 jours dans le monde. Rendez-vous la semaine prochaine.
BFM Business, 7 jours dans le monde.